Chapitre 12. Toc, toc, toc. Le bruit franchit tout juste la barrière de ma conscience. Il est distant, très distant. Toc, toc, toc. J'émerge d'un sommeil sans rêve. Hein? Toc, toc, toc. Petit déjeuner, marmonnai-je. Les bras mécaniques s'enfoncent dans un compartiment du plafond et en sortent un repas emballé. C'est un peu Noël tous les matins. Je soulève le couvercle et un nuage de vapeur enfle dans toutes les directions. Un burrito. Cool. Et le café? En préparation. Je croque dans le burrito. Il est bon. Toute la nourriture est bonne. Ils se sont sûrement dit que, vu que nous allions mourir, nous méritions une cuisine de qualité. « Café !» annonce l'ordinateur. Un bras mécanique me tend une pochette et une paille en plastique. Comme un Capri Sun pour adultes. Un café spécial, condition spatiale. Je laisse le burrito flotter tout près et avale une gorgée de café. Il est délicieux, évidemment. Son dosage en crème et en sucre est parfait. Ces dosages-là sont très personnels et changent énormément d'une personne à l'autre. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, au fait? Je jette un coup d'œil à l'écran LCD collé à côté de mon lit. Je constate que Rocky est de retour dans le tunnel et qu'il frappe à la paroi transparente. Ordinateur, combien de temps ai-je dormi?
Le patient a été inconscient pendant 10 heures et 17 minutes.
Merde! Je m'extirpe de ma couche et me précipite vers la salle de contrôle en me cognant partout. Comme je suis affamé, j'ai pris mon burrito et mon café. « Désolé !» lançai-je en déboulant dans le tunnel. Maintenant que je suis là, Rocky tape encore plus fort sur la paroi de séparation. Il désigne les bâtonnets que j'ai collés à la xénonite, puis son horloge. Il serre un de ses poings. « Je suis vraiment désolé !» dis-je en joignant mes mains comme pour prier. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Il n'y a pas de signe interplanétaire de supplication. Je ne sais pas s'il comprend, mais il desserre le poing. C'était peut-être une menue réprimande. Après tout, il aurait pu serrer 5 poings, et il n'en a serré qu'un. Bref, je l'ai fait attendre plus de 2 heures. Je comprends qu'il soit fâché. J'espère que mon prochain truc rattrapera mon erreur. Je lève un doigt, il fait de même. J'attrape mes ordinateurs portables collés dos à dos, lance mon logiciel d'analyse d'ondes sonores sur l'un et mon tableur Excel sur l'autre. Je les pose contre la paroi transparente ou je les fixe avec de l'adhésif. Je décolle mes bâtonnets en bois. Il faut bien commencer quelque part. Je lui montre le I majuscule. « 1 !» dis-je. « 1 !» Je désigne ma bouche, puis le chiffre éridien. « 1 !» Puis je montre Rocky du doigt. Celui-ci désigne le I majuscule et dit... Je stoppe l'analyseur d'ondes et je reviens en arrière de quelques secondes. Voilà. Le mot éridien pour un 1 est constitué de 2 notes jouées simultanément. Il y a aussi des harmoniques et des résonances, mais les pics de fréquence principaux montrent surtout 2 notes. Je tape 1 dans mon tableur et note les fréquences concernées. Je me retourne vers la paroi et brandis le symbole V majuscule. 2, me répond-il. Encore un mot d'une syllabe. Les mots les plus anciens d'une langue sont généralement les plus courts. Cette fois, il s'agit d'un accord formé par 4 notes. Je tape 2 dans le tableur et entre les fréquences qui constituent le mot. Rocky commence à s'animer. À mon avis, il a compris ce que je suis en train de faire et cela le met en joie. Je brandis le lambda. Ne me laissant pas le temps de parler, il le désigne d'un doigt et lance... Excellent. Notre premier mot de 2 syllabes. J'ai un peu de mal à isoler correctement les ondes. La première syllabe est constituée de 2 notes. La seconde de 5 notes. Rocky est capable d'émettre au moins 5 notes en même temps. Il doit avoir plusieurs jeux de cordes vocales ou un truc de ce genre. Il a 5 bras et 5 mains. Alors pourquoi pas?
Je ne vois pas de bouche. Les notes proviennent de l'intérieur de son corps. La première fois que je l'ai entendu parler, j'ai pensé à un chant de baleine. C'est une comparaison plus pertinente que je ne l'aurais cru. La baleine produit ce chant caractéristique en déplaçant de l'air le long de ses cordes vocales, sans l'expirer. Il se peut que Rocky procède de la même manière.
Toc, 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 toc.
Quoi ? Demandai-je en le regardant.
Il montre le symbole lambda dans ma main, me pointe du doigt puis recommence.
Il semble très agité.
Oh, désolé.
Je tiens correctement le symbole en bois et j'articule 3. Rocky agite joyeusement les mains. Je lui réponds de la même façon.
Pendant que nous y sommes,
je reste immobile quelques instants pour lui signifier que je change de sujet. J'agite de nouveau les mains à la façon d'un danseur de music-hall et je dis
« Oui ».
Je répète le geste.
« Oui ».
Il agite les mains à son tour et lance. Je note les fréquences sur mon ordinateur portable.
« Super ! Nous avons ajouté « oui » à notre dictionnaire bilingue. »
« Toc, toc, toc. »
Je tourne la tête. Quand il est sûr d'avoir attiré mon attention, il agite les mains et répète exactement les mêmes accords que la fois précédente.
Oui, je sais. On a déjà vu ce mot.
Il lève le doigt pendant quelques secondes, serre 2 points et les cogne l'un contre l'autre.
Hein? Oh, je suis professeur. Quelle serait la prochaine étape si je venais d'apprendre à mes élèves à dire oui? Ça veut dire non.
Je l'espère en tout cas. Je serre les poings et les cogne l'un contre l'autre.
Non,
dit-il. Je vérifie sur mon ordinateur. Il vient de dire oui.
Attendez, cela ne signifie pas non alors?
C'est une autre façon de dire oui. Je n'y comprends plus rien.
Non?
Demandai-je.
Non,
répond-il en éridien.
Donc, oui.
Non.
Oui. Oui.
Non. Non.
Oui. Oui.
Non.
Lâche-t-il en serrant le poing et en l'agitant vers moi, manifestement frustré. Bon, j'en ai assez de ce numéro d'Abbott et Costello, interespèce. Je lève l'index. Il desserre le poing et reproduit mon geste. J'entre dans mon tableur les fréquences qui, j'en suis presque sûr, signifient non. Si je me trompe, eh bien, tant pis. Il sera toujours temps de corriger plus tard. Je lui montre le plus. 4. Il déplie les 3 doigts d'une main et 1 doigt d'une autre main. Je prends note des fréquences. Durant les heures qui suivent, nous enrichissons notre dictionnaire de plusieurs milliers de mots. Le langage est un système exponentiel. Plus on sait de mots, plus il est aisé d'en décrire de nouveaux. La communication, cependant, est rendue difficile par mon système d'écoute rudimentaire. J'enregistre les fréquences émises avec un ordinateur avant de chercher les correspondances dans mon tableur. Ce n'est pas très efficace et je n'en peux plus. Je prends congé pour coder un programme. Je ne suis pas expert en informatique, mais je maîtrise des rudiments de programmation. J'écris donc un logiciel qui reliera l'analyseur de fréquences au tableur. Enfin, un logiciel, disons plutôt que c'est un script. Il n'est pas très performant, mais les ordinateurs, eux, le sont. Heureusement, Rocky parle avec des accords musicaux. Alors qu'il est très difficile de faire qu'un ordinateur transforme en texte une voix enregistrée, il est fort aisé de lui faire reconnaître des notes. À partir de ce moment, mon ordinateur affiche une traduction en anglais et en temps réel de ce que dit Rocky. Lorsque survient un nouveau mot, je l'entre dans la base de données et donc dans le vocabulaire actif de l'ordinateur. De l'autre côté de la paroi, Rocky n'utilise aucun dispositif pour enregistrer ce que je dis et fais. Ni ordinateur, ni outil scripteur, ni microphone. Rien. Il est simplement attentif et apparemment se rappelle tout ce que je lui dis. Le moindre mot. Même si je ne l'ai prononcé qu'une seule fois plusieurs heures plus tôt. Si seulement mes élèves étaient si attentifs. Je suspecte les Éridiens d'avoir une bien meilleure mémoire que nous. Pour faire simple, le cerveau humain est une collection de logiciels improvisés et compilés en une unité bizarrement fonctionnelle. Chaque caractéristique a été ajoutée sous la forme d'une mutation aléatoire, résolvant un problème spécifique et augmentant l'espérance de vie de l'espèce. Le cerveau est un bazar sans nom. L'évolution dans son ensemble est un fourre-tout. Je suppose que les Éridiens aussi sont le résultat de mutations aléatoires et que celles-ci, je ne saurais dire comment, ont abouti à ce que nous appellerions une mémoire photographique. C'est sans doute plus compliqué que cela. Une portion importante du cerveau humain est dédiée à notre vue, portion qui possède même sa propre mémoire cache. Peut-être les Éridiens sont-ils particulièrement bons lorsqu'il s'agit de se souvenir des sons. C'est leur sens principal, après tout. C'est prématuré, j'en suis conscient, mais je n'en peux plus d'attendre. Je vais chercher une fiole d'astrophage dans le laboratoire. De retour dans le tunnel, je la montre à Rocky. Astrophage. La posture de Rocky change du tout au tout. Il semble se recroqueviller un peu. Il serre plus fort les barres auxquelles il se tient. Dit-il d'une voix plus faible que d'habitude. Je vérifie sur l'ordinateur. Ce mot, je ne l'ai pas encore enregistré. C'est probablement son mot pour astrophage. Je le note dans ma base de données. Astrophage sur mon étoile, pas bon, expliquai-je en montrant la fiole. Répond Rocky. L'ordinateur traduit « Astrophage sur mon étoile, mauvais, mauvais, mauvais. » Oui, ma théorie se confirme. Il est ici pour les mêmes raisons que moi. J'ai tellement de questions à lui poser, mais les mots nous manquent. Quelle frustration! Mon ordinateur affiche « Vous venir d'où ?» Question. Rocky a assimilé les règles générales de notre syntaxe. Je crois qu'il s'est vite rendu compte que j'étais incapable de me rappeler les choses automatiquement. Aussi préfère-t-il travailler avec mon système plutôt que d'essayer de m'enseigner le sien. Il doit vraiment me trouver bête. De temps à autre, cependant, sa grammaire s'immisce dans ses phrases. Il termine toujours ses questions par le mot « question ». Pas comprendre. Non, votre étoile, question. Oh, il veut savoir comment s'appelle mon étoile. Sol. Mon étoile s'appelle Sol. Compris. Nom Éridien pour votre étoile. Je note le nouveau mot. Sol en Éridien. Au contraire de deux humains communiquant à tâtons, Rocky et moi ne sommes même pas capables de prononcer nos noms mutuels. Nous appelons votre étoile Eridani. Techniquement, c'est 40 Eridani, mais je préfère faire simple. Nom Éridien pour notre étoile. Compris, réponds-je en notant le nom dans notre dictionnaire. Bien. Je n'ai pas besoin de regarder le moniteur de mon ordinateur pour le comprendre. J'arrive désormais à reconnaître les mots les plus fréquents tels que « vous »,« moi »,« bon »,« mauvais », etc. Je n'ai jamais eu la fibre artistique et j'ai tout sauf une oreille musicale, mais à force d'entendre un accord des centaines de fois, on finit par le mémoriser. Je regarde ma montre. Oui, j'ai une montre maintenant. Enfin, je parle de mon chronomètre, dont je viens de découvrir qu'il pouvait également afficher l'heure. J'avais d'autres sujets de préoccupation. Nous y avons passé la journée, et je suis épuisé. Les Éridiens savent-ils ce qu'est le sommeil? Le moment est venu de le vérifier, je suppose. Le corps humain a besoin de sommeil. Le sommeil, c'est ça. Je me mets en boule et ferme les yeux, surjouant un peu le sommeil. Je prends même la liberté de ronfler un peu, car je suis très mauvais acteur. J'ouvre les yeux et me redresse en lui montrant son horloge. Les humains dorment pendant 29 000 secondes. En plus de leur mémoire phénoménale, les Éridiens sont très forts en maths. C'est le cas de Rocky, en tout cas. Comme nous passions en revue nos unités de mesure scientifique, j'ai très vite compris qu'il était capable de convertir mes unités dans les siennes en un clin d'œil. La base 10 ne lui pose aucun problème.
Beaucoup secondes. Pourquoi pas bouger pendant beaucoup secondes? Question. Compris.
Il détend ses membres et devient tout mou. Soudain, il se recroqueville comme un cafard mort et s'immobilise.
Éridien, pareil.
Dieu merci. Je n'ai pas la moindre idée de la manière dont je m'y serais pris pour expliquer la notion de sommeil à un extraterrestre ne dormant pas. Alors je vais perdre connaissance et halluciner pendant quelque temps. En plus, je fais ça pendant un tiers de ma vie. Si je ne le fais pas pendant trop longtemps, je deviens fou et je finis par mourir. Mais ne vous en faites pas. J'ajoute son mot pour sommeil dans ma base de données. « Je vais dormir, » dis-je en me retournant. « Je reviens dans 29 000 secondes. »«
J'observe, »
dit-il. « Vous observez ?»«
J'observe. »
« Il veut me regarder dormir ?» Dans un autre contexte, ce serait pour le moins gênant, mais j'imagine que c'est approprié lorsqu'on étudie une forme de vie inconnue. « Je vais rester immobile pendant 29 000 secondes, » le mets-je en garde. « C'est beaucoup de secondes. Je ne vais rien faire du tout. »
« J'observe. J'attends. »
Il retourne dans son vaisseau. Va-t-il chercher de quoi prendre des notes? Quelques minutes plus tard, il réapparaît avec un appareil dans une main et une sacoche dans deux autres.
« J'observe. »«
Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je en désignant l'appareil. Il sort un genre d'outil de sa sacoche.
Pas fonctionné.
Il touche quelquefois l'appareil avec l'outil.
Je changeais. Pas fonctionné.
Je ne prends pas la peine de noter le nouveau mot. Par quoi le traduirais-je? Machin tenu par Rocky un jour? Deux câbles en sortent et je vois des entrailles complexes par une ouverture. Cet objet ne m'intéresse pas, au contraire de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire le réparer. Un nouveau mot pour notre dictionnaire. Réparer, dis-je. Vous réparez. J'ajoute réparer à la base de données. Je subodore que ce mot reviendra souvent. Il veut surveiller mon sommeil. Il sait que cela ne va pas être très amusant, mais il veut le faire quand même. Alors il a apporté de quoi s'occuper. D'accord. C'est lui qui voit. Attendez. Je file rapidement dans le dortoir, où je récupère mon matelas, mes draps et couvertures. Je pourrais prendre ceux des autres lits, mais mes amis sont morts dedans. Donc, je trimballe maladroitement le tout, traverse le labo et la salle de contrôle, et retourne dans le tunnel. J'utilise une copieuse quantité de ruban adhésif pour coller le matelas à la paroi, puis j'accroche les draps et la couverture. Maintenant, dormir.
Dormir.
J'éteins la lumière. Les lumières sont absolues pour moi, mais elles ne dérangent pas Rocky qui désire m'observer. Le meilleur des deux mondes. Je me glisse dans ma couche en résistant à la tentation de dire bonne nuit. Cela provoquerait immanquablement une nouvelle rafale de questions. Je sombre en écoutant les tintements et grattements occasionnels produits par le travail de Rocky. Les quelques jours qui suivent sont répétitifs. Nous enrichissons considérablement notre vocabulaire et notre grammaire. Les temps, le pluriel, le conditionnel. Les langues sont complexes. Nous y travaillons cependant avec sérieux. Et si le processus est lent, je mémorise de plus en plus de ces mots. J'ai moins souvent besoin de l'ordinateur. Ne vous méprenez pas, j'ai toujours besoin de l'ordinateur. Je ne suis pas prêt de m'en passer complètement. Je passe une heure par jour à étudier le vocabulaire éridien. J'ai écrit un petit script pour choisir des mots au hasard dans mon tableur et jouer les notes via une application MIDI. Encore une fois, C'est un programme inefficace et lent. Mais mes ordinateurs, eux, sont rapides. J'aimerais pouvoir me passer du tableur aussi vite que possible. Pour l'instant, j'en ai besoin constamment. De temps en temps, toutefois, je comprends des phrases entières sans avoir à recourir à mon dictionnaire. J'avance très lentement, mais j'avance. Tous les soirs, je dors dans le tunnel. Ils me surveillent. Je ne sais pas pourquoi. Nous n'en avons pas encore parlé. Nous sommes tellement occupés par ailleurs. En tout cas, il tient absolument à ce que je dorme en sa présence, même quand je veux simplement faire une petite sieste. Aujourd'hui, je veux travailler sur une unité de mesure extrêmement importante que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder, notamment parce que nous sommes en apesanteur. Il faut que nous parlions de la masse.
Oui. Kilogramme.
Exactement. Comment puis-je vous expliquer ce qu'est un kilogramme ? Rocky sort une petite boule de sa sacoche. Elle a à peu près la taille d'une balle de ping-pong.
Je connais masse balle. Vous pesez balle. Vous dire moi combien kilogramme. Moi comprendre kilogramme.
Il y avait déjà réfléchi. Oui, donnez-moi la balle. Il se suspend à des poutrelles avec plusieurs mains et dépose la balle dans le mini-sas. J'attends quelques minutes qu'elle se refroidisse, puis je la récupère. Elle est lisse et constituée de métal. Celui-ci me semble plutôt dense. « Comment je vais mesurer ça ?» marmonnai-je.
« 26 !»
lance subitement Rocky.
« Quoi, 26 ?»«
Balle est 26 !»
précise-t-il en désignant la balle dans mes mains. « Ah, je crois comprendre. La balle pèse 26 quelque chose. Ajoutez l'unité de mesure de masse iridienne. Il me suffit de déterminer la masse de la balle, de la diviser par 26 et de lui donner la réponse.
Je comprends. La balle a une masse de 26.
Non, faux.
Non ? M'étonnai-je après une pause.
Faux. Balle est 26.
Je ne comprends pas. Rocky réfléchit quelques secondes.
Attendre.
Il disparaît dans le vaisseau. Pendant son absence, je me demande comment peser cette balle en apesanteur. Car elle a une masse, même en l'absence de pesanteur. En revanche, je ne peux pas simplement la poser sur une balance. Pas de pesanteur, donc. Et je ne peux pas activer la centrifugeuse du dernière chance, car son nez est relié au spot A par le tunnel. Je pourrais fabriquer une petite centrifugeuse. Quelque chose d'assez gros pour contenir ma plus petite balance de laboratoire et qui tournerait à une vitesse constante. Je commencerai par y mettre un objet dont je connais le poids avant de poser la balle. Le rapport entre les deux pesées me permettrait de calculer la masse de la balle. La centrifugeuse devrait être fiable cependant. Mais comment faire ? Je pourrais faire tourner quelque chose dans l'absence de pesanteur du laboratoire assez facilement, mais comment la faire tourner de manière constante ? Oh ! Je n'ai pas besoin d'une rotation constante. Il me suffit d'un fil avec une marque au milieu. Je m'envole dans le dernière chance. Rocky me pardonnera de m'être enfui. En plus, je parie qu'il m'observe en ce moment même, ou qu'il soit dans son vaisseau. J'emporte la balle dans le labo. Je coupe un morceau de fil en nylon dont j'attache chaque extrémité à une boîte à échantillons en plastique. Je pose les boîtes l'une à côté de l'autre et je tends le fil au-dessus. À l'aide d'un stylo, je marque le point le plus éloigné, le centre exact du dispositif. Je soupèse la boule d'une main puis de l'autre pour estimer sa masse. Sans doute moins d'une livre, moins d'un demi-kilogramme. Je laisse tout flotter dans le labo. Et je me propulse dans le dortoir.
De l'eau ?
Eau demandée,
dit l'ordinateur. Les bras mécaniques me tendent une pochette en plastique dotée d'une paille qui ne laisse passer l'eau que lorsqu'on desserre un bouchon. Elle contient 1 litre de liquide. Le robot me donne toujours de l'eau 1 litre à la fois. Il est important de bien s'hydrater quand on veut sauver le monde. Je retourne au labo. Je traie la pochette et en vide d'environ la moitié dans une boîte en plastique que je referme soigneusement. Ensuite, je mets la pochette dans un de mes seaux de fortune et la balle de Rocky dans l'autre, puis je fais tournoyer le tout dans les airs. Les deux masses ne sont clairement pas égales. La rotation irrégulière des deux contenants démontre que celui qui contient l'eau est beaucoup plus lourd. J'attrape mon dispositif et j'avale une gorgée d'eau. Et puis je refais tournoyer le tout, constatant que le déséquilibre est bien moindre. Je répète l'opération plusieurs fois, avalant progressivement plus d'eau, jusqu'à ce que les deux contenants tournent de façon régulière autour du centre marqué au stylo. Cela signifie que la masse de l'eau est égale à celle de la balle. Je récupère la pochette. Je connais la masse volumique de l'eau. Elle est égale à 1 kg par litre. Il me reste à déterminer le volume de ce qui reste d'eau pour connaître sa masse et donc celle de la boule de métal. Je vais chercher une grande seringue en plastique pouvant contenir 100 cm cubes. Je fixe la seringue à la paille ouverte de la pochette. J'aspire 100 cm cubes d'eau dont je me débarrasse dans la boîte des eaux usées. Et je recommence deux fois. La quatrième et dernière seringue n'est pleine qu'au quart. Résultat, 325 cm cubes d'eau qui pèse 325 grammes. La balle de Rocky pèse donc 325 grammes. Je retourne dans le tunnel pour dire à Rocky à quel point je suis malin. Il agite son poing serré en me voyant arriver.
Vous partir, mal.
J'ai mesuré la masse. J'ai fait une expérience très intelligente.
26,
dit-il en brandissant un collier de perles. Celui-ci me rappelle les colliers et bracelets qu'il m'avait transmis lorsque nous découvrions nos atmosphères respectives.
Oh,
c'est un atome. C'est la manière dont il parle des atomes. Je compte les perles, il y en a 26. Il parle de l'élément 26, l'un des plus courants sur Terre. « Du fer! C'est du fer !» répétai-je en désignant le collier. Acquiesce-t-il en montrant l'objet. Je note le mot dans mon dictionnaire.
« Fer !»
répète-t-il en pointant le collier du doigt. « Fer !»«
Fer !»
insiste-t-il en montrant la boule dans ma main. Je mets quelques secondes à comprendre, et je me mets une claque sur le front.
« Vous, mauvais !»
Ce fut une expérience intéressante, quoique totalement inutile. Rocky m'avait donné toutes les informations dont j'avais besoin. Enfin, il a essayé. Je connais la densité du fer et je sais calculer le volume d'une sphère. Déduire une masse de ces résultats ne nécessite qu'un peu d'arithmétique. Je sors un compas de la trousse à outils que je garde dans le tunnel et je mesure le diamètre de la sphère. 4,3 cm. J'en déduis le volume, que je multiplie par la densité du fer, et finis par obtenir une masse bien plus précise de 328,5 grammes.
« Une erreur d'1%, ce n'est rien, » grommelai-je.
« Vous parlez à vous-même, question ?»«
Oui, je me parle à moi-même. »«
Humain étrange ?»«
Tu m'étonnes. »«
Moi dormir maintenant, » dit Rocky en étirant ses membres.
« Waouh ! C'est la première fois qu'il dort depuis notre rencontre. Bien, cela va me laisser du temps pour travailler au laboratoire. Mais combien de temps ?
Combien de temps dorment les Iridiens ? Pas savoir.
Comment ça vous ne savez pas ? Vous êtes Iridien. Comment pouvez-vous ne pas savoir combien de temps vous dormez ?
Iridien, pas savoir combien de temps sommeil durer. Peut-être pas longtemps. Peut-être longtemps. »
La durée de leur sommeil est imprévisible. Aucune règle ne dit que le sommeil doit évoluer dans un sens particulier. Au moins pourrait-il me donner une fourchette. Y a-t-il une durée minimale? Une durée maximale?
Minimale, 12 265 secondes. Maximale, 42 928 secondes.
Rocky me fournit très souvent des nombres extrêmement précis, là où j'attends des estimations. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi. En réalité, il me donne effectivement des estimations arrondies, en tout cas dans ses unités utilisant la base 6. Il lui est plus aisé de convertir ses nombres en secondes en utilisant la base 10, plutôt que de penser directement en secondes terriennes. Si je convertissais ces valeurs en secondes iridiennes, et transformais le résultat en base 6, je parie que j'obtiendrais un nombre rond. Mais je suis trop fainéant pour cela. Pourquoi déferais-je le travail qu'il a déjà accompli? Par ailleurs, je ne l'ai encore jamais vu se tromper dans un calcul. Je dois déjà diviser ces nombres 2 fois par 60 pour convertir d'une unité terrienne à une autre. Il dormira donc pendant un minimum de 3 heures et demie et un maximum de presque 12 heures. « Je comprends, » dis-je en me dirigeant vers le sas. « Vous observez, question ?» me demande Rocky. Il me regarde dormir, donc il lui semble normal de me proposer de l'observer pendant son sommeil. Je suis certain que les scientifiques de ma planète sauteraient sur cette occasion d'étudier le sommeil d'une espèce extraterrestre, mais j'ai enfin du temps pour analyser la xénonite, et j'ai vraiment hâte de comprendre comment le xénon se lie à d'autres éléments. À condition bien sûr que mon équipement de laboratoire fonctionne correctement en l'absence de pesanteur. Ce ne sera pas nécessaire. Vous observez, question ? Répète-t-il. Non. Observez. Vous voulez que je vous regarde dormir ? Oui. Vouloir, vouloir, vouloir. Nous nous sommes mis d'accord de façon tacite pour qu'un mot répété 3 fois soit synonyme d'emphase extrême.
Pourquoi ?
Moi dormir mieux si vous observez.
Pourquoi ?
Éridien faire cela, insiste-t-il en agitant plusieurs bras avec emphase. Les Éridiens se regardent dormir mutuellement. C'est comme cela. Je pourrais être plus respectueux des cultures extraterrestres, mais c'est lui qui a commencé à faire des remarques quand il m'a surpris en train de me parler à moi-même. Éridien étrange, dis-je. Vous observez ? Je dormir mieux.
Je n'ai pas envie de regarder une araignée de la taille d'un chien dormir pendant plusieurs heures. Il y a bien un équipage là-dedans, non? L'un d'entre eux pourrait très bien faire le job. Je montre son vaisseau.
Un Éridien pourrait vous observer? Non.
Pourquoi?
Je suis seul Éridien ici.
Ma mâchoire inférieure se décroche. Vous êtes le seul passager de cet énorme vaisseau? Il ne dit rien pendant un long moment, et puis il répond « Cela ne veut rien dire. Mon logiciel fait maison montre-t-il ses limites ? Je vérifie. Non, il a l'air de bien fonctionner. J'examine les ondes. Elles n'ont rien de particulier. Les fréquences sont plus graves cependant. Maintenant que j'y pense, la phrase tout entière était plus grave que tout ce que Rocky m'a dit jusque-là. Je sélectionne le segment tout entier dans l'analyseur de fréquence et je le monte d'un octave. La notion d'octave est universelle. Elle n'est pas spécifiquement humaine. On passe à l'octave supérieure en doublant la fréquence de chaque note. L'ordinateur traduit immédiatement la sélection. L'équipage comportait 23 personnes. Désormais, moi seul. Ce changement d'octave, je crois que c'est l'émotion. Est-ce que... sont-ils morts ?
Oui.
Je me frotte les yeux. Waouh ! Le spot A avait 23 passagers. Rocky est le seul survivant, d'où son émotion. Bafouillai-je. Mauvais.
Mal, mal, mal.
Nous étions 3, expliquai-je dans un soupir. « Maintenant, je suis seul, » précisai-je en posant la main sur la paroi transparente.
« Mal, »
répète-t-il en posant une pince derrière ma main. « Mal, mal, mal. » Nous restons ainsi pendant quelques secondes. « Je vous observerai pendant que vous dormirez. »«
Bien, moi dormir. »
Ses membres se détendent et il me refait son imitation d'insecte mort. Comme il ne tient plus aucune poignée ou poutrelle, il flotte librement dans sa moitié de tunnel. « Tu n'es plus seul, mon pote, » lui dis-je. « Et moi non plus. »